9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On fait le tour de la question au lendemain de cet hommage rendu aux sauveteurs de la SNSM disparus en mer pour avoir vendredi voulu secourir un marin en péril. C'était une marche silencieuse au Sable d'Olonne, soulignant le courage, la bravoure, la générosité de ces bénévoles marins pour beaucoup de professions qui n'hésitaient pas à risquer leur vie pour les autres et qui continuent de le faire. Quelles sont leurs missions essentielles? Combien d'hommes, de femmes, d'enfants sauvent-ils chaque année au large des côtes françaises? Et comment fonctionne cette société des sauveteurs en mer, en appui avec le CROSS, avec les pompiers, les autres formes de secourisme aujourd'hui? Eh bien, nous serons un petit peu partout en France, à l'écoute de témoignages, de ces affaires de famille, le plus souvent possible, et nous prolongerons cet hommage pour vous entendre aussi, nous raconter peut-être votre rapport, ma chère Julie, bonjour, que vous avez eu bonjour, avec Wendy. Ces secouristes.
Le standard attend vos appels, bien sûr, vos témoignages, le 39-21, 50 centimes la minute.
Et puis à 10h, on vous propose un peu d'histoire pour redécouvrir les trésors de Pompéi, cette ville d'Italie ensevelie par l'éruption du Vésuve. Nous sommes le 24 octobre de l'an 79 et la lave va surprendre et figer 1200 habitants à jamais. Les fouilles archéologiques nous en apprennent encore beaucoup sur ce traumatisme de l'histoire et le Figaro Histoire consacre un dossier passionnant sur le sujet. Voilà le sommaire de ce mardi 11 juin sur Europe 1 jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec Yannick, avec Eric, avec Jean-Luc qui vont témoigner comme sauveteurs à la SNSM dans un instant et un petit peu partout en France. En studio avec nous, le directeur général de la SNSM, Marc Sauvagnac, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous éclairer alors que nous avons vu hier au moins 15 000 personnes, mais bien davantage car les Français ont été très touchés par ce drame. Rendre hommage à ceux qui ont donné de leur vie pour tenter d'en sauver une. Ils sont aujourd'hui 8 000 bénévoles du sauvetage en mer formés au secourisme. Est-ce qu'ils sont le plus souvent marins d'ailleurs, ces hommes et ces femmes?
Alors ils étaient très très marins par le passé, c'était des pêcheurs qui partaient secourir des pêcheurs. Aujourd'hui ce sont bien sûr des marins, donc issus des flottes de pêche, de la marine de commerce, de la marine nationale, mais de plus en plus de plaisanciers qui nous rejoignent.
Qui ont envie de rendre quelque part l'appareil à ceux qui ont pu les sauver aussi à un moment donné de leur vie?
Oui, ce sont des gens qui sont passionnés de la mer, qui ont bien compris que la solidarité des gens de mer était quelque chose de fondamental et qui souhaitent aussi s'engager par générosité pour secourir les autres.
Évidemment, vendredi, quand on a appris ce drame et qu'on a compris comment ces hommes, tout de suite, après l'alarme, avaient décidé de prendre ce bateau et de partir en équipage, tenter de sauver ce pêcheur en errance. On a compris qu'il y avait cette solidarité d'armes, quelque part, que le danger de la mer était connu et que, quelles que soient les conditions, il fallait aller secourir une vie.
Oui, c'est au cœur de l'activité maritime, dans le cœur des marins, cette idée qu'en mer, tout peut arriver, qu'il faut une solidarité extrêmement forte. Et donc effectivement, quand les sauveteurs sont déclenchés par le CROSS pour une alerte, immédiatement un équipage se forme, appareil en 15-20 minutes. Et ce sont des équipages qui se connaissent, sont des amis, qui connaissent les situations, qui savent analyser avec le CROSS la situation qu'ils vont rencontrer. Et qui partent immédiatement pour secourir la personne. Et bien sûr, il y a une analyse de situation qui est faite, pour composer l'équipage, pour voir quel type de spécialité il va falloir à bord. Mais il n'y a pas de question sur la nécessité de s'engager. Néanmoins, ça reste quand même cette analyse et cette décision à la main du patron d'équipage qui forme son équipage et qui part, sachant très bien les risques auxquels il s'expose.
Bien sûr, un équipage composé de combien d'hommes en général?
Alors ça dépend complètement des moyens qui vont partir. La flotte de la SNSM, elle fait 450 bateaux. Alors, ce sont des semi-rigides de 6 mètres, de 7 mètres, et puis ça va jusqu'aux
couleurs vertes et oranges,
voilà.
Reconnaissables aujourd'hui dans les ports.
Et puis, ça va jusqu'au gros canot tout temps, qui est l'équivalent de celui des Sables d'Olonne. Et là, on en a une quarantaine. Donc voilà, en fonction des bateaux, vous avez un équipage différent. Sur un semi-rigide, vous allez avoir 2-3 personnes. Et puis, sur un canot tout temps, c'est plutôt 7 à 8 personnes. Et puis, ça dépend complètement de la mission qui va être confiée. Il peut y avoir des plongeurs, des nageurs de bord. Il y a tout un tas de spécialités qui vont venir compléter cet équipage.
Julie. Un semi-rigide, c'est comme un gros zodiaque, c'est une structure gonflable.
Voilà, c'est une structure gonflable avec une coque rigide. Ils font de 6 et 7 mètres en général. Donc, ce sont soit des moyens principaux de certaines stations qui ont des zones dans lesquelles ils doivent intervenir, sur lesquelles ils doivent être assez rapides. Mmh. Et léger, et puis ça peut être aussi un moyen secondaire d'un moyen principal un peu plus gros, donc une vedette ou un canot tout temps.
Ils ont réagi en combien de temps au Sable d'Olonne, ces marins, vendredi, ça va très très vite hein, dans la prise de décision.
Ça va très vite, l'appareillage après alerte du CROSS, c'est ce qu'on demande d'ailleurs à nos bénévoles.
Le CROSS, c'est le centre de
commandement. C'est le centre régional opérationnel de sécurité de sauvetage. Mm-hmm. Et de surveillance et de sauvetage. Et donc
Décide d'envoyer ou la SNSM ou les pompiers dans certains cas.
Oui, voilà. La SNSM, en fait, c'est le seul dispositif prépositionné qui est à la main de l'État. Donc parce que les CROSS sont les préfets maritimes et qui coordonnent les activités de sauvetage. Donc le CROSS, après alerte qui lui parvient sur un canal dédié, va décider des moyens qu'il va mobiliser. Et il sait, ce CROSS, qu'il a un maillage de 214 stations tout le long du littoral métropolitain ultramarin sur lequel il peut compter. Il connaît par cœur les équipages, il sait de quels moyens ils sont dotés, le type de mission qu'ils peuvent entreprendre. Et donc le CROSS va mobiliser la SNSM et d'autres pour faire en sorte que les secours soient les plus efficaces possibles.
On était sur un équipage de 7 hommes, 4 ont miraculeusement réchappé à ce drame, 3 hélas ont péri avec, vous le disiez, ce capitaine, avec un ou des mécaniciens, avec à bord également nageurs, plongeurs. C'était prévu aussi pour cette mission, Marc Sauvagnac ?
Oui, là, ce sont des missions, vous l'avez vu, en pleine tempête, qui peuvent s'avérer difficiles, avec nécessité de rejoindre le bateau en difficulté, donc de mettre des plongeurs à l'eau pour aller voir ce qui se passe, pour aller voir s'il y a des blessés, pour aller passer une remorque. Voilà, donc c'est ce type d'équipage complet qui sortent dans ces situations.
Oui, vous comprenez le courage qu'il faut à ces hommes et à ces femmes aujourd'hui. Ces sauveteurs ont 49 ans de moyenne d'âge. Il y a 12% de femmes aujourd'hui, mais 27% de femmes, par exemple, dans les nageurs qui sont plus jeunes. Hein, en général, ils ont 24-25 ans en moyenne. Il faut évidemment une forme physique très, très costaude sur le sujet. Juste après la pause, après avoir un petit peu posé les bases de ce sujet et de la constitution des équipages, je voudrais qu'on donne la parole à Yannick Gillet, qui est sauveteur, comme son grand-père, son père, sa fille, son fils également. Voilà, c'est vraiment une histoire de famille, des dynasties des gens de mer, comme on dit chez vous, et c'est magnifique. À tout de suite sur Europe 1.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question sur le fonctionnement du monde de bénévoles de la SNSM, Wendy Bouchard.
Oui, ce qu'on appelle finalement nos anges gardiens de la mer, grande marche blanche hier au Sable d'Olonne. Et puis jeudi aux alentours de 11h, l'hommage national d'Emmanuel Macron à ces marins disparus, à ceux qui risquent leur vie au quotidien pour sauver l'an passé près de 8000 personnes au large des côtes françaises. On parlera des profils aussi de ceux qui sont sauvés avec nos différents invités. Marc Sauvagnac est avec nous, directeur général de la SNSM. Et je suis heureuse d'accueillir à l'antenne Yannick Gillet. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde.
Bonjour Yannick. Vous êtes du côté d'Andaye. Vous êtes sauveteur bénévole aujourd'hui. Et je le disais juste avant la pause, que c'est une histoire de famille pour vous. Il se trouve que votre papa, votre grand-père sont morts en mer, qu'ils étaient marins, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et entrer, intégrer la SNSM, pour vous, c'était une évidence?
Ah, je me devais de le faire, ne serait-ce que pour leur mémoire, déjà. Et oui, effectivement, moi je suis ancien marin-pêcheur aussi, et c'était primordial pour moi de rentrer à la SNSM, arrivé à ma retraite.
Alors là, vous êtes sauveteur aujourd'hui, vous partez régulièrement, hélas, en mission de sauvetage du côté d'Andaye, Yannick Gillet?
Oui, dès qu'on est appelé, on y va.
Ça veut dire que l'exigence, nous disait Marc Sauvagnac, c'est d'habiter un petit quart d'heure justement des côtes pour être opérationnel. Quel poste avez-vous, vous, dans les équipages aujourd'hui?
Alors moi, je suis mécanicien et patron suppléant.
D'accord. C'est-à-dire que vous mettez aussi votre expérience en lumière et à profit avec différentes générations qui sont à bord avec vous. Et c'est ça qui est très beau aussi dans la SNSM.
Ah, c'est formidable, on a toutes générations confondues. des jeunes, des moins jeunes, voilà, c'est très bien.
Et qui choisit d'associer telle et telle expérience à bord, justement, dans la constitution de ces équipages, Yannick ?
C'est-à-dire que là, c'est quand on est bipé, celui qui est disponible, il vient. Il n'y a pas de configuration particulière.
Comme ceux qui sont partis vendredi, et là, ces trois marins disparus. Tous, vous avez été plongés dans une émotion terrible. J'imagine que reprendre après ces missions, ça fait réfléchir aussi sur, de nouveau, les dangers de la mer, et puis la manière dont nous, peut-être plaisanciers, on aborde cette mer.
C'est ça. Mais bon, la mer, on sait très bien que c'est un lieu dangereux. Même avec du beau temps, il faut faire attention, il faut du matériel, il faut... C'est ça.
L'histoire se poursuit, Yannick Gillet, parce que votre fille, Julie, est entrée à la SNSM. Alors, que fait-elle dans la vie d'abord, Julie ?
Alors, Julie est aide-soignante.
Oui. Et pour quelle raison a-t-elle décidé aussi d'intégrer cette organisation de sauvetage ?
C'est-à-dire que voyant son père à la SNSM, bon, elle entendait parler de la SNSM et elle a décidé de rentrer. Moi, je lui ai donné un petit coup de main pour qu'elle rentre et puis voilà, ça s'est fait comme ça.
Elle participe à quel type de mission, Julie, et à quel poste pour le coup ?
Elle fait des missions comme nous. Dès qu'on est bipé, on y va. Mm-hmm. Et elle est plutôt canotier.
C'est-à-dire
voilà, elle donne un coup de main sur le pont, à tirer les haussières, à donner un coup de main, quoi, vous voyez.
Oui. Quand on parle de vous, Yannick, et de ces 8000 bénévoles comme des héros du quotidien, qu'est-ce que ça vous fait ? Comment vous réagissez ?
Non, moi, je ne le prends pas comme ça. Je le fais parce que voilà, ça me tient à cœur. Mais de là à être un héros, non. Non, je ne pense pas quand même.
Vous risquez votre vie pour les autres, cela dit.
Oui, bien sûr. Mais bon, bien avant moi, il y en a d'autres qui ont risqué leur vie aussi pour les marins, quoi. Donc, il en faut.
Donc voilà, vous vous inscrivez dans une chaîne de solidarité et finalement, on a l'impression que c'est très naturel pour vous.
Tout à fait.
Merci beaucoup Yannick d'avoir traduit finalement Marc Sauvagnac. Et ce qui est beau, c'est ce naturel avec lequel ces hommes s'engagent. Yannick a attendu d'être à la retraite pour s'investir pleinement dans cette mission. Et vous en avez beaucoup de profils de ce type aujourd'hui.
Ah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a des bénévoles qui viennent de tous les milieux. Mmh. C'est assez extraordinaire. C'est un brassage incroyable. Et de génération. L'âge moyen des équipages en intervention, c'est 48 ans. Donc, ce sont des gens qui travaillent. Qui veulent un équilibre d'ailleurs entre leur vie professionnelle, leur vie familiale et leur engagement associatif, et qui viennent de tous les horizons professionnels, donc, et qui se réunissent pour la même cause. Je crois qu'il y a peu de modèles, surtout de ce modèle de bénévolat hyper qualifié, parce que pour sortir en mer, il faut de hautes qualifications, mm-hmm. Pour faire du sauvetage en mer, ça ne s'improvise pas. Et donc c'est assez unique de voir comme ça toutes ces générations et tous ces métiers brassés pour la même idée de solidarité et de sauvetage.
C'est ça qui est rassurant aussi, ou qui est beau, Yannick Gillet, c'est que le relais est pris quelque part par les plus jeunes aujourd'hui à la SNSM.
Oui, tout à fait. Il faut des jeunes aussi, parce que nous, on veut bien leur faire transmettre le savoir-faire, mais il faut des jeunes, quoi, pour que ça perpétue.
Bien sûr. Est-ce qu'ils ont besoin pour vous de recueillir une formation particulière ? Parce que Marc Sauvagnac nous disait évidemment avant, la plupart des bénévoles à la SNSM étaient marins, pêcheurs, avaient donc une connaissance aiguë de la mer. Aujourd'hui, ces jeunes-là ont envie de bien faire, ils sont dans l'altruisme, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes connaissances aujourd'hui. Vous le constatez, vous ?
Oui, bien sûr. Après, il faut toujours se remettre en question. Jeunes ou vieux, on a besoin toujours de formation et de se remettre en question, quoi. Ça, c'est, il y a de l'évolution dans le matériel, dans beaucoup de choses, dans le secourisme, donc voilà.
Oui, et on parlera de toute façon avec vous, Marc Sauvagnac, et avec d'autres bénévoles, de ces besoins de formation, d'éducation, ce qui suppose aussi des frais de formation. Voilà pourquoi votre générosité, chers amis auditeurs, est essentielle. L'État ne subventionne et ne soutient qu'à 20% la SNSM, 80% donc des dons sont des dons privés pour faire vivre et pérenniser cette société de sauveteurs en mer. Merci Yannick Gillet et à tout de suite, on recevra dans un instant les témoignages d'Eric qui est aussi vers Andaï. Lui, il est professeur de guitare jazz au Conservatoire de musique des Landes et eh bien, il a fait de la mer et du sauvetage aussi une seconde vie finalement. Et puis Jean-Luc est du côté de Bandol en Méditerranée. On parlera avec lui des autres dangers liés à cette mer et on est à quelques jours des grandes vacances et on a beaucoup de choses à vous dire, chers amis, sur le sujet. À tout de suite, ma chère Julie.
Et pour nous joindre, vous avez aussi les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Je vais me servir du message de Fred sur Facebook pour rappeler le thème de l'émission. Il nous dit Société nationale de sauvetage en mer, nous parlons de la SNSM. Association loi 1901, créée en 1967 et reconnue d'utilité publique. Leur slogan est « Pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes ».
Oh, cela, c'est Fred. Magnifique. C'est votre slogan officiel ou c'est un slogan poétique inventé par Fred aujourd'hui, Marc Sauvagnac, qui est directeur général?
Non, non, c'était un slogan de nos campagnes passées, mais finalement qui perdure parce que c'est une phrase qui est... Voilà, qui est pleine de sens.
On ferait bien de tous s'en souvenir. On parlera de certains comportements indigents, hélas, de ceux que vous secourez. Il faut rappeler les chiffres, ils sont essentiels et témoignent de cette réalité, Marc Sauvagnac. 7191 personnes secourues en mer. Ça veut dire vraiment avec les embarcations dont vous nous parliez. Mais vous faites beaucoup plus que ça, en réalité. Vous sauvez près de 30 000 personnes, m'avez-vous dit, c'est-à-dire ?
Oui, nous portons assistance à 30 000 personnes. Il y a deux activités à la SNSM par an. Deux activités à la SNSM, donc celles dont on a parlé, qui sont les stations de sauvetage qui sont le long du littoral métropolitain et également outre-mer. Et puis ensuite, il y a la formation des nageurs-sauveteurs. Ça, on en parle moins souvent. On a 32 centres de formation, également bénévoles. Voilà, ce ne sont que des bénévoles, qui encadrent des jeunes, généralement étudiants, de 18 à 25 ans, qu'on va former avec une formation assez longue, hein, de 300 heures la première année, avec... un brevet national de sécurité de sauvetage aquatique, un permis bateau, le plus haut niveau de premier secours, un certificat de radiotéléphoniste, puis après des formations de spécialité, pilotage de jet ski, de semi-rigide, des jeunes qui sont très aguerris et qui sont dans les postes de secours que vous voyez sur les plages,
oui,
et qui sont amenés à intervenir dans la bande des 300 mètres, les premiers 300 mètres depuis le rivage, et puis également à prodiguer les premiers secours sur les plages. Donc ça représente, ces premiers secours sur les plages, ça représente 20 000 personnes qui sont prises en charge chaque année.
C'est énorme.
Et puis ils font également, pendant l'année, des missions de sécurité civile dans le cadre de manifestations publiques dans lesquelles l'organisateur doit organiser et trouver des organisations pour faire les premiers secours. Donc la SNSM, comme le font la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, est amenée à faire ces prestations de premiers secours. Et à cette occasion, c'est aussi le secours de 2 000 personnes. Donc finalement... La prise en charge par les sauveteurs de la SNSM, c'est 30 000 personnes par an, que ce soit donc en mer, que ce soit dans les zones de baignade, sur les plages ou dans les missions, dans les manifestations publiques.
Et tout ça, on vous le rappelle, bénévolement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un centime qui termine dans les poches de ceux qui vous sauvent la vie. Simplement, il faut de l'argent, d'abord pour entretenir les bateaux, on va parler de cette flotte qui est nécessaire à restaurer, et puis la formation et l'entraînement des bénévoles, parce que cet entraînement est permanent. Il y a 2 à 4 grosses séances par mois de formation, de jour et de nuit, c'est-à-dire qu'en dehors de leur temps dédié, justement, au sauvetage des autres, il y a cet entraînement aussi, Marc Sauvagnac, qui est de rigueur.
Oui, je crois qu'il faut vraiment prendre conscience de la pression qui s'exerce sur le bénévolat et le bénévolat de la SNSM. Parce qu'effectivement, ils sont amenés à intervenir, on l'a vu, il faut qu'ils s'entraînent. Donc ça, c'est quasiment, quand on regarde le nombre d'interventions, c'est l'équivalent du nombre le nombre d'entraînements est l'équivalent du nombre d'interventions.
D'accord.
Il faut ensuite qu'ils se forment. Et là, c'est une formation au long cours.
Combien de temps ?
Dans les équipages, ça dure. Alors, ça, c'est fonction de chacun. Mmh. Hein, mais c'est une formation par compagnonnage. Et puis ensuite, la SNSM structure des parcours de formation quasi professionnels dans les stations de sauvetage et puis dans le pôle national de formation que nous avons à Saint-Nazaire pour former notamment les patrons d'équipage. Et ça, c'est très important. Donc, les interventions, les entraînements, la formation... l'administration des structures locales, la petite maintenance des moyens de sauvetage. Vous voyez que l'emploi du temps de nos bénévoles est excessivement bien rempli, peut-être trop, et c'est l'un des sujets qui pour demain, nous inquiète et qui concerne la pérennité de ce modèle bénévole assez exceptionnel.
peut-être trop sollicité parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus assez de bénévoles au regard justement des personnes que vous devez sauver, pour dire les choses très clairement.
On arrive à recruter des bénévoles, ils sont aujourd'hui issus de tous les horizons, donc avec des problématiques de formation importantes. Ça n'est plus le même bénévolat que par le passé. Mmh. On avait avant, mais ça ne concerne pas que la SNSM, un bénévolat plus militant, plus sacrificiel, pour le dire comme ça. Oui. Aujourd'hui, le bénévolat, je ne parle pas des sauveteurs spécialement, le bénévolat en général, ce sont des gens qui veulent un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle, leur vie personnelle et leur engagement. Mmh. Et on voit que l'engagement des bénévoles de la SNSM est complet quand on considère ces interventions, entraînement, formation, administration, collecte de fonds, puisqu'on leur demande aussi de contribuer à l'achat du bateau qui va être renouvelé tous les 10 ans, 20 ans ou 30 ans.
C'est vraiment un engagement incroyable.
Voilà, tout ça avec des personnes qui ont 48 ans d'âge moyen, donc ce sont des actifs, des gens qui travaillent et qui doivent se mobiliser pour la SNSM toute l'année.
Alors nous, on se mobilise aussi pour ces journées nationales, les 28 et 29 juin, qui vous permettent de collecter des dons. On verra précisément à quoi ils sont affectés aujourd'hui, puisqu'on parlait d'entraînement et de formation. Marc Sauvagnac, juste après la pause, nous serons avec Éric Ruiz, dont je vous parlais il y a un instant, qui est professeur de guitare jazz au Conservatoire de musique des Landes, mais qui est aussi formateur, et il va s'échapper quelques instants de sa formation, justement, pour nous en dire davantage sur l'antenne d'Europe 1. On vous retrouve, ma Julie, et puis vous nous lirez quelques commentaires aussi, parce qu'on vous a posé une question sur Facebook, savoir si vous connaissiez justement les rouages de ce sauvetage en mer. Hein. La réponse ?
Ma réponse, oui, non, à 59%.
Ouais, voilà.
Ça, c'est mitigé. Ouais, donc enfin, il y a une majorité de gens qui ne connaissent pas.
À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Au lendemain de la marche blanche au Sable d'Olonne qui rendait hommage aux trois sauveteurs qui ont péri en mer lors d'une opération de sauvetage d'un chalutier en détresse, la SNSM doit donc poursuivre sa mission de secours à la mer à quelques semaines des vacances d'été. Bien sûr, on compte toujours sur eux.
Ah oui, et ils sont essentiels, ces 8000 bénévoles. Vous nous disiez, Marc Sauvagnac, en qualité de directeur général de la SNSM, que chaque année, vous sauvez près de 30 000 personnes, à la fois sur les plages, mais aussi en mer. 7 000 l'an passé. La Société Nationale de Sauvetage en Mer, créée en 1967 et qui manque aujourd'hui de financement, pour dire les choses très clairement. On va parler par exemple de l'équipe équivalent britannique de la SNSM, vous n'avez pas aujourd'hui les moyens d'assurer une mission qui devrait presque être, qui est une mission régalienne au fond. Vous le faites à titre bénévole, avec 6 millions d'euros donnés par l'État, il vous en faudrait bien davantage pour être encore plus performant et pour peut-être rétribuer ces hommes et ces femmes qui composent la SNSM.
Oui, c'est important de parler de nos collègues britanniques parce que c'est une société de sauvetage qui a un dispositif opérationnel à peu près équivalent à celui de la SNSM, qui secourt à peu près le même nombre de personnes, mais qui a un budget qui est 8 fois supérieur à celui de la SNSM et qui a 1000 salariés quand la SNSM en comprend 85. Donc on voit la différence. Alors quand nous projetons notre plan de formation dont on a parlé, cette formation essentielle pour les sauveteurs, on a vu dans quelles conditions ils sont amenés à intervenir et la nécessité pour eux d'avoir des qualifications de haut niveau. Et puis la planification du renouvellement de la flotte de sauvetage, donc 450 bateaux, donc 40 navires roturiers, canots tout temps du même type que celui des Sables d'Olonne, qu'il faut renouveler. Ces canots tout temps arrivent à maturité. Ils ont été construits entre 1988 et 1998, en 10 ans. Ils arrivent après 30 ans de mise en service à devoir être renouvelés. Et donc, ça, c'est un surcroît d'investissement, un budget supplémentaire qui fait qu'on va doubler nos investissements dans les années qui viennent. Et donc, formation et investissement, nous planifions un déficit financier de l'ordre de 4 millions d'euros par an. Mais ça n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Oui.
Parce que, on le disait tout à l'heure, le bénévolat est soumis à une pression croissante, à ce point croissante que nous nous posons des questions quant à la pérennité de ce modèle bénévole, du point de vue de la capacité de ces bénévoles à s'engager dans l'avenir, avec toutes ces formations qu'on leur demande, avec l'administration de leur structure locale, avec la collecte de fonds, l'entretien de leur matériel. Donc on devrait maintenant prendre en considération non pas que les déficits financiers apparents, mais également la nécessité de se structurer mieux. 1000 salariés chez nos collègues britanniques, 85 salariés à la SNSM.
Il faut se poser des questions. Jeudi, Emmanuel Macron rendra l'hommage national à ses marins et ses sauveteurs disparus. Et bon, on verra s'il annonce aussi une dotation supplémentaire à la SNSM. Mais l'enjeu est là. Éric Ruiz, vous êtes avec nous en ligne d'Andaï, vous qui êtes président de la SNSM. Et je vous remercie de vous échapper quelques instants de la formation que vous prodiguez en ce moment aux futurs ou aux actuels sauveteurs. Bonjour Éric Ruiz.
Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à Marc aussi.
Voilà, vous connaissez.
On ne se connaît pas, mais on est de la même famille.
Voilà, c'est ça, la famille, exactement. La famille dans laquelle vous êtes entré, à quel moment de votre vie, Eric ?
Alors moi, je suis rentré à la SNSM en 2011, avec aucune qualification, juste un permis côtier de plaisancier. Et grâce à la SNSM, j'ai pu faire... beaucoup de formations, notamment dans le secours à personne, dans le secourisme, pour arriver à être instructeur.
Comment vous y êtes entré par un déclic ou un accident de vie particulier ?
Oui, un accident de vie, un gros problème de santé où j'ai frôlé la mort et je me suis dit qu'il fallait quand même que j'avais eu de la chance et qu'il fallait rendre un petit peu.
Vous avez été sauvé par les hommes et les femmes de la SNSM ? C'est ce que vous dites ?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout,
non,
d'accord.
Non,
mais l'altruisme s'est manifesté ainsi pour vous.
Oui, voilà.
D'accord.
Et donc, je me suis dit, bon, évidemment, aimant la mer et les bateaux, je suis rentré comme ça, tout bêtement.
Aujourd'hui, c'est combien de pourcents de votre temps, de votre emploi du temps, cette mission SNSM et la formation ?
Oh ben écoutez, c'est à plein temps en parallèle de mes activités professionnelles en tant que président d'une station, même si c'est une petite station. C'est un boulot à plein temps, quoi. C'est tous les jours que il faut être dessus tous les jours.
Là, vous aviez quel profil devant vous il y a quelques minutes encore parmi les sauveteurs ?
Alors là, non, la formation que je suis en train de faire, c'est pas une formation SNSM. Parce qu'en parallèle, j'ai une activité de formateur SFP.
Donc, SFP, ça veut dire ?
Sauveteur secouriste du travail.
D'accord, vous êtes vraiment là-dedans.
Voilà, ah oui, alors, pour la petite histoire, j'ai arrêté le conservatoire et j'ai remplacé les cours de guitare par des cours de secourisme.
Bon, bah voilà, écoutez, c'est aussi très très utile. Je vais vous livrer quelques réactions sur Twitter parce que nous avons des choses qui vont vous parler, Éric Ruiz, notamment le petit message de Charles à l'instant, Charles Robert. Faire payer les plaisanciers imprudents, la mer est à tout le monde, mais le danger couru par les sauveteurs, non. Et je crois que vous avez cette approche aussi particulière à nous livrer, Éric Ruiz, parce que les dangers de la mer, les marins les connaissent bien, mais les plaisanciers imprudents, vous en voyez tous les jours, et en particulier en été.
Oui, alors il y a vraiment encore y a un vrai travail d'éducation à faire auprès des plaisanciers. Qui ne tiennent pas compte, sans généraliser évidemment, ils ne tiennent pas compte des mesures de sécurité. Et le gros problème, il est sur le port des gilets de sauvetage.
Ouais. C'est-à-dire qu'en général, ils sont dans les embarcations, mais ils ne sont pas mis.
Voilà, ils ne sont pas mis et on voit même des enfants sans gilets de sauvetage. À savoir, ce qui est important de savoir, c'est que l'hypothermie, ce n'est pas que l'été, c'est l'hiver aussi. Et que on tombe à l'eau, finalement, il faudrait essayer de se mettre dans la position du fœtus pour essayer de conserver la chaleur corporelle au maximum. Et sans gilet de sauvetage, c'est impossible à faire.
Oui. Par exemple, après, vous avez des plaisanciers, beaucoup dans le sud. Alors, je ne sais pas si Verandaï, c'est le cas, mais des permis, des bateaux à louer sans permis, voilà, qui vous donnent une sorte de sentiment d'ivresse et pas forcément le sens des responsabilités alors que la mer est pleine de dangers.
Oui, voilà. Donc, il y a toute la partie ludique l'été avec... effectivement, toutes ces embarcations qu'on peut louer comme ça. Il y a ça, mais tout au long de l'année, il y a aussi l'éducation des plaisanciers qui, finalement, moi, je m'aperçois qu'ils ne savent pas grand-chose. Et en matière de secours à personne, ils ne savent rien, pour la plupart.
Oui, vous avez raison de le souligner, alors que ça devrait être aussi essentiel. Est-ce qu'à la SNSM, par exemple, dans les postes que nous décrivait Marc Sauvagnac, on peut acquérir un petit peu les gestes qui sauvent ou des petits trucs de secourisme et de formation sur les plages l'été?
Sur les plages, peut-être pas, mais... Nous et d'autres stations font des manifestations où on fait une sensibilisation aux gestes de secours. Mmh. Moi, je fais quelques formations pour les différentes associations liées à la mer du port d'Hendaye. Mais bon, on sent bien que le secours à personne, c'est vraiment secondaire. S'il y a un pépin, on appelle les secours, mais à savoir que sur un arrêt cardiaque, sur un voilier par exemple, le temps que la SNSM et les autres secours arrivent, les 15 minutes, on les a minimum.
Oui.
Et sur un arrêt cardiaque, si vous ne faites rien pendant 15 minutes, sachant qu'on a des séquelles au niveau du cerveau dès la première minute, ça va vite devenir compliqué.
Apprendre aussi les gestes qui sauvent, voilà, ça fait partie d'une éducation. On parlera des nouvelles embarcations qui sont aussi des dangers potentiels tout à l'heure avec le président de la SNSM de Bandol en Méditerranée. Je pense au paddle, par exemple, qui vous laisse dériver parfois très loin et qui suscite beaucoup d'appels de détresse auprès de la SNSM. Juste après la pause, Maxence veut réagir, il a 23 ans, il est maître nageur bénévole au SNSM et il va venir témoigner lui aussi. Merci Éric Ruiz et merci de votre investissement, de votre engagement humain au quotidien pour sauver ces hommes, ces femmes et ces enfants. Et à tout de suite avec Julie jusqu'à 10h, on fait le tour de la question.
Le tour de la question avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Je reviens sur la question Facebook qu'on vous a posée. Connaissez-vous les opérations de sauvetage en mer? Non à 59%, mais il y a des oui quand même, en particulier Serge. Oui, 29 ans de secours maritime en avion à guider ces surhommes. Ça laisse rêveur sur la désuétude du système de secours en mer français. Alors Serge, il réagit au drame bien sûr, il nous donne, dit-il, quelques pistes de réflexion. Il suffirait d'instaurer une taxe de 1% sur la vente des bateaux et une taxe annuelle pour que la SNSM ne soit plus armée que par des bénévoles, mais aussi des professionnels à son service. Mmh. Voilà pour renflouer les caisses de la SNSM. Et puis autre chose, aux États-Unis, quand une tempête est annoncée, il est interdit de sortir du port.
Alors, oui, là...
Là, il y a peut-être eu quand même ce pêcheur qui est parti en mer alors qu'elle était déchaînée.
Oui, mais vous avez voulu couper court justement à ces polémiques. D'abord, penser à la famille du pêcheur parce qu'il est disparu et que la veuve est aussi éplorée que les autres, Marc Sauvagnac. Mais en fait, vous avez évincé très vite le sujet, considérant qu'à partir du moment où quelqu'un est en danger, c'est exactement comme ça que fonctionnent les pompiers, on y va et on ne se pose pas la question du pourquoi, du comment cette personne est arrivée là. Est-ce qu'on se la pose quand même quelques jours après?
De toute façon, les sauveteurs se posent la question quand le CROSS les appelle. C'est-à-dire qu'un patron d'équipage a tout à fait la possibilité, comme les membres de son équipage d'ailleurs, de dire « moi je n'y vais pas ». Donc personne n'est obligé d'y aller. Donc le patron d'équipage, c'est lui qui a cette expérience, c'est lui qui part avec son équipage, qui est d'accord avec lui d'aller affronter les éléments.
Je trouve que c'était quelqu'un qu'il connaissait, un pêcheur, voilà.
Donc après, c'est leur expérience qui leur permet de mesurer les risques qu'ils prennent. Ils savent les risques auxquels ils sont exposés. Alors après, réguler la fréquentation en mer, on pense que c'est très compliqué. On ne voulait effectivement pas aborder cette question à ce moment où on est vraiment dans l'émotion, on est dans la tristesse, dans le chagrin. Je crois que ce n'est pas le moment d'aborder ça, mais juste pour le dire simplement, c'est très compliqué d'imaginer faire ça. La mer, ça doit rester un espace de liberté. Alors on sait que dans nos sociétés, on veut de plus en plus de sécurité. On sait aussi que la sécurité, elle a pour contrepartie une limitation des libertés. La mer, ça doit rester un espace de liberté. Et puis après, il y a une question pratique. C'est que si vous voulez empêcher de sortir en mer, il faut des critères. Et puis les risques qu'on prend en mer dépendent éminemment des qualifications des personnes qui sortent. Donc comment mesurer si un plaisancier est plus ou moins aguerri dépend de son bateau. Est-ce que son bateau est en capacité de sortir par telle ou telle mer ou non dépend de tout un tas de facteurs qui sera assez difficile de réguler. à part pour dire, ben voilà, à partir de tant de vent ou tant d'état de mer, on arrête tout.
En tout cas, ce qu'on apprend avec vous, c'est que l'équipage aurait pu refuser d'aller porter secours à cet homme.
Il en a tout à fait le droit. Oui. Maintenant, nos sauveteurs sont là pour aller secourir les personnes. Donc ça n'est pas une question qui se pose pour eux. Il arrive parfois que soit parce qu'ils n'ont pas l'équipage en nombre suffisant, soit les compétences qui sont nécessaires d'embarquer ne sont pas disponibles, soit le bateau n'est pas disponible, il se déclare indisponible. Et le CROSS a toute latitude pour aller mobiliser une station voisine ou pour mobiliser d'autres moyens.
Mais le bateau que les sauveteurs ont emprunté, là, il n'était pas insubmersible ?
On a dit ça, non ? Non, ce sont des bateaux, ils sont tous insubmersibles.
Mais aucun bateau n'est insubmersible.
Non, mais la question qui s'est posée là surtout, c'est que les vitres ont implosé. Oui. Donc l'eau est rentrée dans la timonerie, a envahi la salle des machines, donc le bateau n'était plus opérant. C'est ça la question.
On ne peut pas maîtriser, ça s'appelle l'ALA, d'une mer déchaînée, de la puissance, des vibrations.
C'est vraiment l'aléa, très difficile de comprendre pourquoi des vitres peuvent exploser. On peut imaginer la violence du choc.
Bien sûr.
Après, moi, je ne suis pas ingénieur et la résistance des matériaux n'est pas quelque chose que je maîtrise, mais enfin, j'imagine qu'un certain nombre de conditions convergentes peuvent provoquer une fragilité et confronter à une vague extrêmement puissante peut amener à briser des vitres.
C'est rare.
Mais c'est extrêmement rare.
Heureusement, en 1986, dans le Finistère, il y aura un sauvetage aussi dramatique pour la SNSM avec 5 sauveteurs bénévoles morts noyés en tentant de porter secours à un yacht en difficulté. Heureusement, la plupart du temps, ils sauvent ces hommes, ces femmes et ces enfants en détresse. Maxence est avec nous, vous avez 23 ans. Bonjour Maxence. Vous êtes au Standard d'Europe 1 avec nous depuis la Vendée. Vous êtes maître nageur. Bonjour Maxence. Une fois Maxence, deux fois Maxence, trois fois Maxence. On va vous retrouver dans un petit instant. Maxence, parce que vous souhaitiez témoigner juste après la pause. Nous serons également avec Jean-Luc Cessiot, président de la SNSM de Bandol en Méditerranée. Et vos réactions sur Twitter, Julie.
Avec le hashtag Europe 1. Le tour de la question sur le sauvetage en mer. Nous parlons de la SNSM ce matin avec Wendy Bouchard.
Avec ses 8000 bénévoles qui œuvrent toute l'année pour sauver 7000 personnes en situation de détresse en mer, mais plus de 25 000 sur les plages de France et à l'approche de l'été, vous saurez combien leurs missions sont essentielles. Vous avez entendu quelques témoignages et je vous renvoie aussi à un article très intéressant, très documenté dans Marianne, qui est repris en ligne sur marianne.fr et que l'on doit à Vladimir de Gmelin, que je remercie car il nous a mis aussi en contact avec un certain nombre de ces sauveteurs. Maxence, on vous a retrouvé, vous nous entendiez au 39-21. Bonjour Maxence.
Bonjour.
Je vous remercie de prendre la parole pour nous parler de votre investissement de cœur. Vous qui êtes bénévole au sein de la SNSM, depuis combien de temps Maxence ?
Alors en fait, moi j'y suis rentré à l'âge de 17 ans, donc maintenant ça va faire ma cinquième année.
Ah, formidable. Et vous êtes alors au Sable d'Olonne, non loin de là où le drame a eu lieu il y a quelques jours.
Exactement. En fait, moi j'ai en gros... Je suis nageur sauveteur en fait, c'est-à-dire que l'été, moi, je travaille sur les plages du littoral français en qualité de nageur sauveteur. Donc moi, en fait, je suis pas de la station des Sables d'Olonne, mais je suis du centre de formation et d'intervention de Vendée en fait, qui est situé au Sables d'Olonne en fait. Donc je les connais très très bien la station.
D'accord. Donc vous êtes bénévole toute l'année. Alors sur les qualités de surveillance des plages en été, Marc Sauvagnac me disait que la mairie, vous rétribue un peu quand même. Ça fait partie des services quasiment municipaux.
Exactement, en fait, en gros, généralement une saison nageur sauveteur, ça va de juin jusqu'à septembre.
Oui.
Et en fait, on est employé communal saisonnier, et en fait, c'est comme un travail d'été, comme un travail de saisonnier, sauf que nous, on a des missions qui sont un peu plus, avec plus de responsabilité l'été.
D'accord. On vous a posé la question sur Facebook à nos auditeurs. Connaissez-vous les opérations de sauvetage en mer et les missions de la SNSM ? Ils nous ont répondu non à 60%. Donc, ça veut dire que cette émission aussi était éclairante pour eux.
Oui,
vous constatez sur le terrain qu'il y a ce défaut d'information, de connaissance de ce que fait la SNSM au quotidien ?
Exactement. En plus, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que d'être dans cette association-là, moi, je connais ses missions. Et puis, en fait, c'est vrai que c'est un petit monde, donc on se connaît entre stations. Et en fait, moi, j'étais derrière la page Facebook du centre de formation pendant tout le week-end après ce horrible drame.
Oui.
Et en fait, dans les commentaires, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, les gens découvraient que c'était des bénévoles qui géraient, en tout cas, qui étaient l'un des premiers maillons de la chaîne de secours en mer.
Oui.
Alors qu'au final, nous, en fait, c'est un investissement qui demande énormément. Alors, c'est vrai qu'on est bénévole, mais en fait, ça demande énormément d'investissement en termes de compétences, en termes de formation. Et c'est vrai pour ça que je voulais prendre un peu la parole pour dire à quel point, en gros, cette association-là, elle est une envergure qui est considérable. On est des bénévoles, certes, mais en fait, comme l'expliquait avant les différents interlocuteurs que je connais relativement bien, en fait, on a beaucoup de formations qui nous permettent, en fait, de devenir après des professionnels de la mer. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de moyens, parce que toutes ces formations-là qui sont très qualifiantes en termes de secourisme, en termes de sauvetage, en termes de procédures de secours, de l'intervention par exemple sur les canaux de radio où on n'intervient pas comme on parle au téléphone. Et c'est vrai qu'on a tout ça, ça demande des moyens, et c'est pour ça que moi je voulais le renforcer de mon point de vue. Moi j'en suis témoin de ce manque de moyens, voilà. Donc on a vraiment besoin.
Et vous faites bien de le dire, Maxence. Votre métier, quel est-il par ailleurs?
Alors moi, je suis dans l'armée de terre, donc totalement différent. Je suis un peu éloigné des mers, mais en gros, moi, sinon, je suis officier communication dans l'armée de terre.
D'accord. Et votre investissement à la SNCM vous prend combien de temps par mois, par semaine?
Alors là, c'est vrai que j'ai un peu dû au professionnel, ça m'a un peu réduit, mais la plupart du temps, c'est plusieurs week-ends dans l'année.
Et voilà.
Il faut savoir que par exemple, quand on rentre en formation la première année, c'est deux séances de nage par semaine, des formations le soir, des semaines entières pour le secourisme. Mais voilà, pour un formateur à la SNSM, c'est pratiquement tous ces week-ends qui lui sont pris. En fait, c'est en gros, quand on rentre à la SNSM, après, moi, c'est envie en fait de diffuser ce qu'on a appris, de transmettre ce qu'on a appris. Et c'est pour ça que moi, ça m'a vraiment touché en fait quand j'ai appris la station par les trois de ses membres, parce que ces gens-là, c'est des gens que je connais. Et moi, par exemple, l'été, c'est des gens que j'ai vus, par exemple, moi, quand j'étais sur les plages à Lons-sur-Mer, qui est juste un peu dans le nord des Sables-d'Olonne. Bah, des fois, quand on est dans des missions un peu difficiles, en fait, c'était la station des Sables-d'Olonne qui venait nous porter un soutien. Par exemple, moi, je me rappelle d'une mission où un bateau s'est retourné. Et quand on les voyait arriver avec le canot orange, même nous qui sommes de la même famille, bah, on se disait, ah, ça y est, c'est les anciens, c'est les canotiers, c'est les embarqués qui arrivent. Et puis voilà, c'est vrai que c'est vraiment un drame pour moi.
Bien, ouais. Et puis, on comprend la solidarité, puis la fraternité vraiment qui vous lie, vous qui donc serez mobilisé, Maxence, comme pas mal d'été, j'ai bien compris, sur les plages de Vendée. Et vous gérez la page Facebook du SNSM en Vendée. Voilà, on peut retrouver aussi les différentes missions. Merci, Maxence, de cet appel.
Exactement.
Et puis, voilà, bravo pour votre investissement.
Et moi, je tenais à vous remercier, à vous, de mettre en lumière... au cours de cette émission, même depuis ce week-end, toutes nos missions, parce que c'est vraiment une belle association. Et puis, je veux me permettre un dernier petit message. C'est vrai qu'on a besoin de dons, mais aussi, voilà, si vous êtes jeune et si vous avez envie de vous engager, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre de formation. Il y en a 32 en France. C'est une superbe aventure humaine. C'est vraiment des compétences qui forment vraiment des beaux esprits. Donc voilà, n'oubliez pas, on a besoin de moyens, certes, mais aussi on a besoin d'engagement. Donc si vous êtes jeune, si vous êtes sportif, ou même si vous êtes un peu moins jeune, rentrez dans les stations, parce qu'on a besoin de vous et on a besoin de compétences.
Et ben vous êtes génial, vous êtes un très bel ambassadeur. Merci, Maxence. Et puis je rappelle que les journées des 28 et 29 juin de sensibilisation permettront aussi de récolter quelques dons. Si vous voulez bien, Marc Sauvagnac, je vous garde encore quelques petites minutes à l'antenne, parce que je voudrais qu'on parle des liens entre les pompiers, entre la SNSM aussi, comment tout cela s'organise. On a beaucoup de questions du genre sur Twitter, et Jean-Luc Sercio va pouvoir nous éclairer, aussi président de la SNSM en Méditerranée à Bandol, sur le sujet. Petit tour de la question prolongée, parce que voilà, on a envie de mettre en lumière ce que font ces hommes, ces femmes, 8000 bénévoles qui sauvent chaque année 30 000 personnes. Retenez bien ces chiffres. À tout de suite, Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
La météo, Laurent Cabrol, on se prépare à une journée semi-pourri, quoi.
Vous avez raison, Wendy, nous allons vivre certainement la journée la moins agréable de la semaine, et tout au long justement des jours à venir, eh bien, nous aurons le même type de temps, c'est-à-dire un temps où alterneront nuages, éclaircies, averses et orages, et des températures très fraîches. C'est le lot de notre semaine. Dimanche, il devrait y avoir un changement de temps, mais ce sera une amélioration, sans savoir si elle sera provisoire. A priori, elle serait provisoire, de sorte que la semaine prochaine, il y aura à peu près le même type de temps, et on se demande maintenant si nous ne devrons pas patienter jusqu'au 21, c'est-à-dire le jour de l'été, pour voir enfin l'été s'installer sur la France.
Bon, bah, mais tard que jamais. Merci Laurent, voici l'info Julie.
9h58 sur Europe 1. Marion Calais pour l'info. Bonjour Marion.
Bonjour Julie, bonjour à tous. C'est une information qu'Europe 1 vous dévoilait ce matin. La mort à Paris d'un jeune homme de 25 ans qui circulait en trottinette électrique. L'accident s'est produit vers 22h30 dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le nord de la capitale. La victime a refusé la priorité à une camionnette qui arrivait sur sa droite à un carrefour. Le chauffeur du véhicule a été placé en garde à vue. Il s'agit d'éclaircir les circonstances exactes de l'accident. Pour ça, les policiers vont également examiner les enregistrements enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la ville. Sa famille lui demande de se rendre à l'appel des proches du jeune homme de 20 ans qui, dans sa fuite dimanche à Lorient, a renversé deux enfants. L'un est mort, l'autre gravement blessé. Le conducteur est toujours activement recherché ainsi que la passagère qui l'accompagnait au moment du drame. Suppression du numerus clausus, développement des hôpitaux de proximité, régularisation des médecins étrangers, voilà certaines des mesures contenues dans le projet de loi santé sur lequel les sénateurs doivent se prononcer aujourd'hui. C'est à la faveur de ce vote solennel d'ailleurs que les personnels soignants des hôpitaux ont décidé de se mobiliser ce mardi. Grève nationale pour obtenir une augmentation des effectifs et des salaires. Plus le droit à l'erreur pour l'équipe de France de foot. Après la défaite samedi 2-0 contre la Turquie, les Bleus jouent ce soir contre l'Andorre. Quatrième match de qualification pour l'Euro 2020. Les Bleus, actuellement deuxième de leur poule à égalité de points avec l'Islande.
Merci Marion Calais, à tout à l'heure 11h.
À tout à l'heure. Europe 1.
Il est 10h. Europe 1.
9h, 11h.
Wendy Bouchard.
On poursuit, chers amis, si vous nous rejoignez, notre tour de la question dédiée aux anges gardiens de nos mers, les pompiers des mers, comme nous dit Adeline sur le hashtag Tour de la question, les sauveteurs de la SNSM, association créée en 1967, qui compte aujourd'hui 8000 bénévoles, mission régalienne, mais voilà, bénévoles essentiellement aujourd'hui, et ça c'est magnifique. 30 000 personnes secourues chaque année sur les plages ou au large du littoral français. Marc Sauvagnac nous éclaire sur ses missions, directeur général de la SNSM. Vous avez entendu Yannick, Eric, Maxence à l'instant et Jean-Luc Sercio nous rejoint, président de la SNSM de Bandol en Méditerranée. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Wendy.
Voilà, pour faire état aussi de votre expérience, témoigner de ce que vous faites au quotidien, Jean-Luc Sercio, nous avons pas mal de questions qui vont dans le même sens. Julie, d'abord pour Jean-Luc.
Un tweet de oui. LNR. Mmh. Serait-il possible d'en savoir plus sur l'articulation pompier SNSM sur les secours en mer?
Oui, comment ça fonctionne, Jean-Luc Sercio?
Alors, il n'y a pas d'articulation directement entre les pompiers et les SNSM, sachant que toute intervention va être diligentée par un centre de coordination qui s'appelle le CROSS, d'accord, le Centre Régional Opérationnel Surveillance Sauvetage. Mm-hmm. C'est le CROSS qui va décider d'envoyer l'unité, donc principalement la SNSM en mer, bien évidemment. Ensuite, l'articulation, eh bien, les pompiers vont prendre le relais une fois à terre.
D'accord.
Une fois à terre, les pompiers vont prendre le relais. Alors pour nous, ici à Bandol, c'est fabuleux parce que nous avons au sein de l'équipage, nous sommes partagés entre dans la SNSM, dans nos différentes professions, nous avons bien évidemment un maximum également de pompiers qui nous ont rejoints parce qu'ils ont la même fibre d'aller sauver son prochain. Mais lorsqu'ils sont à bord, ils ne sont plus pompiers, ils sont des bénévoles de la SNSM, habillés en orange SNSM.
Très bien, c'est clair. Jean-Seb Desmarais nous écrit la Marine nationale peut intervenir, même si, et là c'est le CROSS qui de nouveau en fait la demande et qui gère la crise, mais la Marine nationale peut venir en appoint de vos missions, Jean-Luc Sercio?
Bien évidemment, mmh. Et même souvent, on en a parfois besoin, on travaille en commun. Alors on travaille à la Marine nationale, il y a déjà les bases aéronavales avec leurs hélicoptères, avec qui nous travaillons pratiquement, je ne pas dire quotidiennement, mais suivant les interventions, nous entraînons des gens en commun et ensuite nous travaillons ensemble. Nous avons parfois, comme très dernièrement, il y a 10 jours de ça, nous avons fait dérouter un bateau de la Marine nationale par le CROSS, vu l'état de la mer que nous avions, pour pouvoir transférer à bord de la Vedette une personne qui était en arrêt cardiaque. Et on ne pouvait pas, vu l'état de la mer, sinon le transférer et le brancarder.
Évidemment.
C'est la Marine nationale qui nous a fait le soutien. Le CROSS gérera tout ça. Et le CROSS a à sa disposition tous les moyens terrestres, tous les moyens maritimes, tous les moyens aériens de l'État, bien évidemment, et qu'il va mettre à la disposition des sauveteurs. Dans des cas comme ça, on travaille en coordination.
D'accord. Vous pouvez aller jusqu'à combien de kilomètres des côtes
Alors, on va jusqu'à 20 000, nous. On va jusqu'à 20 000, 40 kilomètres des côtes.
40 kilomètres des côtes.
En gros, 40 kilomètres. Et bien évidemment, suivant tout ce qui se passe, lorsqu'on est un peu moins loin, ça nous est arrivé de monter à 30, voire 40 000, à doubler, sous la demande du CROSS pour continuer une mission.
Jean-Seb, qui est passionné, nous recommande le livre « Au bout de la remorque » de Charles Cladden et nous signale que la SNSM, Marc Sauvagnac, sont aussi des remorqueurs exceptionnels. Alors, c'est-à-dire que la Baie Flandre, ce n'est pas la SNSM. Aujourd'hui, la Baie Flandre, c'est la marine.
La Baie Flandre, c'est le groupe Bourbon qui fait une prestation pour l'État, et qui est supposé, qui fait du remorquage, mais de très gros tankers, voilà, bateaux de commerce.
D'accord.
La SNSM, ça n'est pas du tout ça. 80% des interventions de nos sauveteurs sont auprès des plaisanciers. Mm-hmm. Donc on est amené à secourir les personnes, donc ça c'est à titre gratuit, puisque c'est le droit maritime international hein, qui est comme ça, secours des personnes est gratuit.
Et sur puis la ensuite, plage ou en mer. Hein.
Sur la plage ou en mer. Mmh. Et puis ensuite, il faut s'occuper du moyen, du plaisancier, donc de son bateau, de sa planche à voile, de son dériveur. Et alors là, c'est l'assistance au bien, et cette assistance qui va donner lieu techniquement au remorquage du moyen du plaisancier qui est en difficulté, va être facturée suivant un barème qui défraie une partie seulement d'ailleurs des coûts engagés par la SNSM.
D'accord. En moyenne, pour une petite embarcation, c'est combien d'euros le remorquage ?
Alors ça dépend du moyen de la SNSM qui est dépêché. Si c'est un semi-rigide, ça sera moins cher que si c'est un canot tout temps.
Oui.
Et puis ça dépend de la taille du bateau du plaisancier qui va être remorqué ou du pêcheur, hein, évidemment.
Bien sûr, mais c'est une prestation logique à rémunérer.
C'est une prestation logique qui va de 150 euros au forfait pour des tout petits moyens légers jusqu'à 600 euros de l'heure. Hein, si c'est un canot tout temps qui remorque un bateau de plaisance de taille importante.
Oui, et là, ça nous renvoie aussi à la responsabilité des fameux plaisanciers. Je ne parle pas des pêcheurs, mais des plaisanciers, Jean-Luc Sercio. Je ne dirai pas où, mais moi, j'ai vu des plaisanciers se comporter de manière absolument scandaleuse, en considérant que c'était un dû aussi qu'on remorque à leur embarcation, alors qu'ils ont failli mourir et qu'ils ont été sauvés par la SNSM. Vous avez affaire aussi à des profils très particuliers. Et là, j'imagine que vous serrez les dents.
Oui, alors Wendy, dans des cas comme ça, il faut savoir, je crois qu'il y a une méconnaissance de la part du plaisancier. Autant le professionnel de la mer, qu'il soit marin ou qu'il soit pêcheur, connaît. Beaucoup de plaisanciers qui n'habitent pas le littoral, qui ne fréquentent pas notre littoral et qui viennent uniquement consommer, entre guillemets, la mer en saison estivale, pour quelques jours, hein, en louant un bateau ou en passant 3-4 jours là entre amis, n'ont pas conscience, pense peut-être que c'est l'État. On a une appellation de société nationale de sauvetage en mer.
Et c'est une mission régalienne.
Qui peut prêter à confusion. Oui. Voilà, qui peut prêter à confusion.
Mais quand bien
même. Et pour eux, eh bien, on doit venir n'importe quoi. Nous avons des gens, malheureusement, ça nous est arrivé encore il y a très peu de temps, en fin d'été dernier, qui doivent rentrer, prendre l'avion à Paris. Il n'y a pas suffisamment de vent avec un voilier. Ils sont encore à 10 000. Ils nous appellent pour les remorquer et pratiquement, on nous engueule parce qu'ils vont manquer leur avion. On en est là.
Ouais.
Alors, c'est des cas extrêmes, bien évidemment.
Non,
la majorité des plaisanciers sont de bons plaisanciers. La majorité sont de bons plaisanciers. Personne n'est inconscient. Il y a une part de méconnaissance à la mer de la part des gens qui ne fréquentent pas suffisamment le littoral, certainement la montagne.
Hein. Quand on connaît la mer, on connaît aussi la cruauté des vents d'est, la dérive facile sur des petites embarcations légères qui font qu'on peine vraiment à revenir au bord parfois. Et il y a cette mode qui est formidable d'ailleurs, hein, du paddle, mais qui entraîne pas mal de risques aussi, et ça vous l'avez constaté ces dernières années avec ces modes régulièrement, il y a aussi des situations de détresse à la clé.
Vous savez, la Méditerranée, le Var, la Côte d'Azur en particulier, nous avons les loisirs nautiques. Dès qu'il y a une invention d'un loisir nautique,
c'est d'abord là-bas.
Eh bien, nous avons les pratiquants chez nous. Voilà. C'est tout le temps. Donc, alors, là-dessus, c'est comme tout. Un paddle, c'est fabuleux pour découvrir la mer, c'est écologique. C'est agréable, c'est tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, un paddle peut aller jusqu'à 2000 de nawis, c'est jusqu'à 4 kilomètres. Lorsqu'il y a du vent, lorsque la mer se lève, si on n'est pas bon, si on n'est pas entraîné, si on n'est pas sportif, on a du mal à pouvoir entrer. Et ensuite, pour nous, eh bien, on a un mal terrible à retrouver. On a quelqu'un allongé sur un bout de planche. Dans du gros temps, arriver en tombée de nuit, c'est une difficulté absolue de retrouver. On a sauvé un kayakiste, nous, il y a 10 jours. 10 jours sauvés d'une mort certaine, en hypothermie totale. Ça faisait 1h30 qu'il était dans l'eau, qu'il ne pouvait plus monter sur un kayak rempli d'eau. Il l'a reconnu, il a pris des risques insensés, inutiles, en méconnaissance, totalement. Voilà.
Alors on espère
ensuite,
simplement que
revenir,
ce kayakiste fournira les rangs de la SNSM demain en qualité de bénévole. Je vous en prie, je laisse terminer.
Il est venu au moins nous porter des gâteaux, voyez,
voilà,
pour nous remercier.
Déjà. Ouais. Jean-Luc, vous vouliez prolonger.
Oui, je voulais prolonger sur ce que disait Marc tout à l'heure, Marc Sauvagnac, par rapport aux assistances, c'est-à-dire au remorquage. Il faut bien savoir qu'à la mer, on n'est pas comme en voiture. Sur l'autoroute, vous êtes en panne, vous mettez sur le côté, vous attendez la dépanneuse et puis vous risquez rien, vous êtes assis derrière la rambarde. En mer, il faut savoir que lorsque la mer se lève, une simple panne mécanique, une avarie, une panne de carburant, le bateau va dériver. Tant qu'il est large et qui ne coule pas, on va pouvoir venir le chercher. Mais lorsqu'il s'approche des rochers et qu'il vient frapper la côte, les voies d'eau, les gens qui sont éjectés, qui n'arrivent plus à monter sur les falaises, malheureusement, d'une petite panne minime, ça devient une catastrophe. D'où l'importance de gérer le sauvetage de la vie humaine, mais bien souvent, nous pouvons sauver des vies humaines grâce au remorquage de leur navire, préalablement.
Merci, merci infiniment Jean-Luc Sercio. Voilà, vous nous avez dit beaucoup, beaucoup de choses et j'étais très heureuse de prolonger cette émission avec vous, vous qui présidez la SNSM de Bandol dans le Var, qui est voilà, aussi une ville magnifique. Et ne nous trompons pas, parce que la Méditerranée est pleine de dangers, vous le savez bien au quotidien, comme ces 8000 bénévoles qui vous aident chaque année. Et les grandes collectes nationales sont là aussi pour abonder les fonds. Ils sont nécessaires pour la SNSM. Ce sont les 28 et 29 juin. Mais je vous recommande une petite chose. Vous avez peut-être des anniversaires à fêter. Il y a la fête des pères ce week-end. Alors vous allez en ligne sur la boutique de la SNSM.com. Vous trouvez plein de choses formidables. Vous pouvez faire votre petit shopping et puis associer un don à la clé. Vous nourrissez de manière intéressante cette collecte. Marc Sauvagnac, j'ai bien dit ? Ça vous va ?
Oui,
parce que là, vraiment, moi, j'ai fait mes emplettes et je suis très, très heureuse d'avoir allié l'utile au nécessaire. Voilà. Merci beaucoup, Marc Sauvagnac, de nous avoir éclairé, directeur général de la SNSM. Vous retrouvez toutes ces qualités encore sur Internet. Le tour de la question vous rendait hommage, chers amis. Merci, Julie. Ben, on va prolonger avec un peu d'histoire. Hein ? Entendu. Jusqu'à 11h, on parle de Pompéi dans un instant.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. La solution des pros pour affranchir en quelques clics jusqu'à 25 colis en même temps.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.